Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues. Aujourd'hui, je me fais encore plaisir en parlant d'un guitariste qui m'est cher, alors que sa carrière n'a duré que 5 ans et qu'il est décédé depuis plus de 50 ans. Seulement voilà, Howard Duane Ullman, né en novembre 1946, est décédé des suites d'un accident de moto en octobre 1971, à même pas 25 ans, fut un guitariste de rock, un musicien de session particulièrement renommé. Il fut le fondateur et premier leader de l'Ullman Brothers Band, mais c'est sa carrière de musicien de session en studio qui va nous intéresser aujourd'hui. Né à Nashville, Tennessee, Duane Ullman a commencé à jouer de la guitare à l'âge de 14 ans. Il est surtout connu pour son jeu expressif de guitare slide et son sens de l'improvisation inventive. Il devint un musicien de session recherché avant et pendant son mandat avec l'Ullman Brothers Band. Duane Ullman a joué avec les plus grands comme Ken Curtis, Aretha Franklin, Herbie Mann, Wilson Pickett ou encore Buzz Gags. Il a également beaucoup contribué à l'album de 1970 Layla and Other Assorted Love Songs de Derek and the Dominoes avec Eric Clapton. Il est impossible de les passer tous en revue, je parle des participations. Aussi, je me suis attaché à rappeler ce qui a marqué nettement sa notoriété et même les jingles seront mis à contribution. Il fait partie des 10 premiers dans la liste des 100 plus grands guitaristes de tous les temps du magazine Rolling Stone. Sa guitare Gibson Les Paul et ses deux amplificateurs de basse Marshall de 50 watts sont considérés comme l'un des meilleurs ensembles sonores de tous les temps par Guitar Player, le magazine. En outre, Duane Ullman dégageait une intensité, un dynamisme et surtout la capacité à tirer le meilleur des autres musiciens. Sky Dog était son surnom, le chien du ciel. Alors, n'en jetez plus, la cuillère est pleine. Nous allons commencer cette revue des chansons à jouer Duane Ullman avec l'un des groupes dont il fit partie. Le 31st of February était un groupe de rock and roll formé par les natifs de Jacksonville en Floride. En fait, c'était des copains d'internat de l'université qui comprenaient le guitariste-chanteur Scott Boyer, le bassiste David Brown et le batteur Butch Trux. Duane et son frère Greg en firent partie après avoir joué dans plusieurs autres groupes éphémères. 31st of February s'est formé sur la base de ce que faisaient des groupes comme les Byrds ou encore Lovin' Spoonful, à savoir du folk rock. Les débuts furent difficiles, essuyant plusieurs refus pour jouer dans les clubs. Un soir, les frères Ullman entrent dans un club de Jacksonville, le club Martinique, pour écouter les musiciens prévus à l'affiche. Impressionnés par la performance de Bitter Independence, les deux frères viennent les voir à l'issue du show. Une amitié est née. Pour les deux frères, c'est l'époque des Ullman Joys qui obtiennent un concert au Beachcomber, un autre club de Jacksonville. On est début 1967. Pendant ce temps, les Bitter Independence se retrouvent à Miami, en Floride, et signent chez Vanguard Records en tant que les 31st of February. Leur premier album éponyme sort début 1968. C'est un mélange de folk rock et de pop psychédélique, et ce sera un échec. Au même moment, les frères Ullman ont arrêté l'Ullman Joys et se lancent dans Hourglass. Mais cela ne dure pas. Le rapprochement des frères Ullman avec les membres de 31st of February se concrétise, avec l'enregistrement de Melissa, une composition de Greg qui connaîtra un autre sort quelque temps plus tard. Les morceaux sont en général des standards du blues où la voix de Greg et la guitare de Duan initient ce qu'on appellera plus tard le Southern Rock. Voici un exemple avec Morning Dew, la rosée du matin, qui reste une chanson formidable encore aujourd'hui pour moi. Et à noter que les paroles de cette chanson, de la Canadienne Bonnie Dobson, racontent une conversation fictive dans un monde post-holocauste nucléaire. C'était Morning Dew par les 31st of February sur OxyWeb Radio. La première session d'enregistrement importante pour Duan Ullmann a eu lieu au RCA Studio B de Nashville. Le producteur Tony Moon a enregistré le premier album de The Vogues, un groupe de l'époque. Or, il a engagé Duan Ullmann pour jouer sur plusieurs titres car il voulait un son plus rock. C'était au début de 1966. Tony Moon le connaissait car les Ullmann Joys étaient le groupe maison du studio Briar Patch à Nashville. Puis l'oreille de Rick Hall, manager des studios Fame à Muscle Shoals, est attirée lors d'une session pour un album de Hourglass. Là, on est en novembre 1968, Eric Hall achète le contrat de Duane pour 10 000 dollars. Ainsi, Duane a pu jouer officiellement comme accompagnateur de session. Et son premier client marquant fut Wilson Pickett. Le travail d'Hallman sur l'album Hey Jude notamment, édité fin 1968, va le confirmer comme musicien de session à plein temps à Muscle Shoals. Et cela va le porter à l'attention d'autres musiciens. Et je rappelle, Wilson Pickett, né en mars 1941 et décédé en janvier 2006, était une figure majeure du développement de la musique soul américaine. Il a enregistré plus de 50 chansons qui ont figuré haut placé dans les charts rhythm and blues américains, soit le Billboard Hot 100 par exemple, avec In the Midnight Hour, Land of Thousand Dances, Mustang Sally et encore Funky Broadway. Et sur l'album Hey Jude de Wilson Pickett, le jeu de Duane Allman, notamment sur la chanson Hey Jude des Beatles, va notamment attirer l'attention également d'Eric Clapton, qui cherchera à connaître le nom du guitariste. Leur rencontre ne se fera que 3 ans plus tard pour l'album Layla. Mais voici une autre chanson de l'album où Duane joue aussi. Il s'agit de Born to be Wild, le tube de Steppenwolf, que l'on entend sur le film Easy Rider, enregistré en 1968. C'était Born to be Wild par Wilson Pickett avec Duane Allman à la guitare sur OxyWeb Radio. La performance de Duane Allman sur Hey Jude a aussi impressionné Jerry Wexler, producteur exécutif d'Atlantic Records. Jerry Wexler a immédiatement acheté le contrat d'enregistrement de Duane Allman à Eric Hall et a voulu l'utiliser pour des sessions avec des artistes rhythm and blues atlantiques. Pendant son séjour à Muscle Shoals, Duane Allman a joué sur des enregistrements de nombreux artistes du label, notamment Clarence Carter, King Curtis, Aretha Franklin, Otis Rush, Percy Sledge, Johnny Jenkins et même le flûtiste de jazz Herbie Mann. Parmi ses premiers clients, on trouve Clarence George Carter, plus connu sous le nom de Clarence Carter, né en janvier 1936, qui est un chanteur, auteur, compositeur, musicien et producteur américain de blues et aussi de soul. Ses chansons les plus réussies incluent Sleep Away, Backdoor Santa, deux titres sortis en 68, et Patches en 1970. Il est né aveugle, mais a pourtant réussi des études brillantes. Cela ne l'a pas empêché de réaliser une belle carrière musicale, d'abord en duo avec son ami Calvin Scott. En 1965, le duo a enregistré dans le studio Fame de Rick Hall à Massachusetts pour le label Atco, filiale alors d'Atlantic Records, mais sans succès. Devenu artiste, solo, les premiers succès arrivent, dont le fameux Sleep Away, son tube de 1968. Il a rejoint alors Atlantic et peut désormais bénéficier du jeu de Duane Allman sur ses disques, comme sur Light My Fire, la chanson des Doors. Le titre est équivoque, mais correspond bien à l'esprit véhiculé par Clarence Carter dans ses chansons, où il parle souvent d'histoires d'amour débridées et de sexe illicite.
I want to say to you, hey girl, we couldn't get much higher. So come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time for hesitation is through. There's no time to while away the mire. Darling, we could only lose, and our love become a funeral pyre. So come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on.
C'était Light My Fire, Allume Mon Feu, par Clarence Carter avec Duane Allman à la guitare sur OxyWeb Radio. Dans Open Blues, j'ai déjà parlé de Bob Skaggs, né Bogbert Skaggington, qui est un chanteur, compositeur et guitariste américain originaire de l'Ohio. Au début, en 1967, il s'est fixé à San Francisco, centre de musique psychédélique en plein essor. Renouant avec son vieil ami Steve Miller, il apparut sur les deux premiers albums du Steve Miller Band. Puis, Boz Gags a obtenu un contrat solo avec Atlantic Records en 1968. Pour son deuxième album, intitulé tout simplement Boz Gags, il met en vedette la section rythmique de Muscle Shoals et c'est là qu'il rencontre le guitariste de session Duane Allman et on est en 1969. Auparavant, Boss Gags avait passé un séjour dans le studio pour voir ce qu'il s'y faisait au plan musical et pourquoi toujours avec autant de succès. Or, parmi les révélations, il y avait ce jeu de Duane Allman et il voulut l'avoir absolument dans ses musiciennes sessions. Mais au même moment, Duane était en Floride pour mettre sur pied son futur groupe, l'Allman Brothers Band, et voulait placer ses participations aux sessions d'enregistrement en veilleuse. Boz insista et réussit à faire revenir Duane. Cela donna un album que je considère très réussi. Malgré de bonnes critiques, cet album n'a enregistré que des ventes modérées. Ce n'est qu'avec le temps, mais surtout je pense compte tenu du succès de l'Allman Brothers Band, que les ventes ont décollé. Aujourd'hui, c'est un standard de la musique américaine. Le morceau phare de cet album est « Loan Me a Dime » où on entend le solo de Duane est fabuleux. Mais 12 minutes, c'est un peu long pour le passer aujourd'hui. Et je vous propose à la place « Waiting a Train »,« Attendre un train » où le jeu de slide de Duane fait merveille à la limite de la country.
All around the water tank, waiting for a train. A thousand miles away from home, sleeping in the rain. I walked up to a brakeman to give him a line of talk. He says, if you've got the money, I'll see that you don't walk. I haven't got a nickel, not a penny can I show. Get off, you railroad bum. You slam the boxcar door. Yodelay. Faces all around me, the moon and stars up above. Nobody seems to want me or lend me a helping hand. I'm on my way from Frisco, I'm going to Dixieland. Though my pocketbook is empty and my heart is full of pain, I'm a thousand miles away from home, just waiting for a train.
C'était Waiting for a Train par Boz Gags avec Duane Allman à la guitare sur OxyWeb Radio. Beaucoup, dont je suis, Duane fait partie des plus grands guitaristes de l'histoire du rock. Il a mis du temps à atteindre le succès, mais il y est parvenu. Sa formation académique ou de conservatoire de musique, Duane Allman a su maîtriser tout le langage du blues, la puissance du rock, avec une capacité d'inspiration inlassable dans ses moments d'improvisation, et aussi une technique époustouflante dans l'utilisation du bottleneck. Sur scène comme en studio, il a montré son immense talent. John Paul Hammond, né à New York en novembre 1942, également connu sous le nom de John Hammond Jr., est un chanteur et guitariste de blues. Il est le fils du célèbre producteur de musique John H. Hammond. John joue généralement sur des guitares acoustiques et des dobros en chantant dans un style boogie-woogie. Depuis ses débuts, en juillet 1962, pour le label Vanguard Records, John Hammond a enregistré 29 albums et a obtenu un Grammy Awards ainsi que 4 nominations supplémentaires. C'est le cas typique des artistes acclamés par les critiques, adulés par d'autres stars. Je citerai par exemple John Newker, Rory Gallagher, Duane Allman, Robbie Robertson et Charlie Musselwhite qui ont tous participé aux enregistrements d'Hammond, de John Hammond. Il est par ailleurs la seule personne qui a pu réunir dans son groupe Eric Clapton et Jimi Hendrix en même temps. À la fin des années 60, durant une semaine de concert au Gaslight Café à New York, il avait réussi cet authentique exploit. En revanche, ses succès sont peu populaires. C'est l'occasion de l'écouter dans Shake For Me, Remue Pour Moi, une chanson de Willie Dixon, l'auteur-compositeur de chez Chess Records. Duane, il joue du bottleneck avec son intensité coutumière. C'était Check For Me par John Hammond avec Duane Allman au bottleneck sur OxyWeb Radio. Autre musicien adulé de la scène blues par les critiques et les musiciens, voici Otis Rush, un guitariste et chanteur américain de blues, né à Philadelphia dans le Mississippi en avril 1935 et mort en septembre 2018. Otis Rush arrive au début des années 50 à Chicago où il devient un des leaders de la scène blues. Il est gaucher mais il joue d'un instrument pour droitier, c'est-à-dire à l'envers, sans en changer les cordes. D'aucuns pensent d'ailleurs que cela contribue au son très distinctif qui est le sien. Rapidement à Chicago, il commence à se faire un nom en jouant dans les clubs de Southside ou de Westside. Avec son chant déclamatoire et théâtral, porté par sa voix de baryton très soul et ses solos de guitare très expressifs, Otis Rush crée un style personnel qui va inspirer des guitaristes comme Luther Allison ou Freddie King. D'abord sur le label Cobra dirigé par Eli Toscano et Willie Dixon, il suivra Willie Dixon chez Chess Records, puis il va passer chez Duke Recordings. Bon, en fait, il change souvent de label. À partir de 1966, malgré une participation très remarquée à l'American Folk Blues Festival, Otis Rush traverse une période sombre. Même son album, Morning in the Morning, bien qu'enregistré dans les studios Muscle Shoals et produit par Michael Bloomfield et Nick Ravenites d'Electric Flag, il n'obtient pas le succès escompté. Sa carrière se poursuivra ainsi entre deux eaux, malgré l'apport de musiciens tels que Duane Allman, Eric Clapton ou encore Mick Taylor. Ce n'est que dans les années 70 que les choses s'améliorent, avec alors chez Delmark Records son album live de 1985, enregistré au San Francisco Blues Festival, qui marquera son vrai retour définitif. Voici Reap What You Sow, récolte ce que tu sèmes, une chanson typique de son style où la présence de Duane Allman dynamise ce blues lent.
Judgment in the morning, baby. There is gonna be judgment in the morning, baby. There's gonna be judgment in the morning. Yes, baby. You're gonna reap for what you sow. You'll never make the jailhouse for the things you do. You'll never make the jailhouse. There's gonna be judgment in the morning, baby. There's gonna be judgment in the morning, baby. Never buy with money. What you throw away. You'd never buy with money. What you throw away. You're gonna be mourning in the morning, baby. You're gonna be mourning in the morning, baby. You're gonna be mourning in the morning. Yes, baby. Cause you made your bed that way.
C'était Reap What You Sow par Otis Rush avec Duane Ullman en filigrane derrière la chanson sur OxyWeb Radio. Les frères Ullman ont commencé à jouer en public dès 1961, rejoignant ou formant des groupes locaux. À cette époque, Duane a quitté l'école et il veut travailler son jeu de guitare. Son premier groupe, Vier Escorts, a même ouvert pour les Beach Boys en 1965. Mais c'est dissous et va renaître partiellement avec les Ullman Joyce. Après que Greg ait obtenu son diplôme en 1965, les Ullman Joyce partent sur la route, se produisant dans tout le sud-est des États-Unis depuis Nashville. Les Ullman Joyce sont devenus les Hourglass et ont déménagé à Los Angeles au début de 1967, enregistrant deux albums pour Liberty Records. Mais le groupe n'est pas satisfait. En fait, Liberty veut en faire un groupe pop, alors que le groupe veut faire du blues rock. Hourglass disparaît au début de 68. Duane et Greg retournent en Floride, où ils jouent avec le 31st of February. Greg doit retourner en Californie pour remplir les obligations d'Hourglass, tandis que Duane sillonne la Floride pendant des mois sans vrai but arrêté. Jusqu'à ce que Rick Wall de Muscle Shoals le détecte, puis Jerry Wexler d'Atlantic Records. Duane a commencé à jouer de la guitare slide le jour de ses 22 ans, en 1968. Il se remet alors d'une blessure au coude gauche, suite à une chute de cheval. Ce dernier avait fait un écart par la faute de Greg. Pour se faire pardonner, Greg lui offre pour son anniversaire le premier album de Taj Mahal et une bouteille de pilules coridécine. 2 heures après son départ, Duane appelle Greg et lui dit de revenir pour qu'il entende son jeu de slide sur Statusboro Blues avec le tube de coridécine. Greg est bluffé par cette version, la légende était en route. Ce flacon restera l'outil de bottleneck de Duane toute sa carrière et il va influencer quantité de joueurs de guitare slide qui aiment sa sensation et son son vitreux. Voici la chanson Dirty Old Man, vieil homme sale, composée par Delaney Bramlett et chantée par Lulu Kennedy Cairns, connue sous le nom de Lulu, une chanteuse écossaise venue enregistrer dans les studios de Muscle Shoals et où se trouve Duane Ullman à la guitare.
Jug of wine, he's a dirty old man. Yeah, don't listen here, he ain't the kind to understand. Well, I said don't listen here, he ain't the kind to understand. No, 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 no. Well, you know I tried to tell you, you should have known that he'd be gone, leaving you alone to just weep and moan. The dirty old man. Well, honey, I told you long time ago, if you just admit it, you're gonna be fine. He was always taking, never giving, always looking at all the other women. Now I said, child, won't you ever have a learn? Yeah.
C'était Dirty Old Man par Lulu avec Duane Ullman à la guitare sur OxyWeb Radio. autre grande vedette avec qui Duane Allman a enregistré, Ronald Hawkins. Né en janvier 1935, c'est un musicien de rock'n'roll, à la fois américain et canadien, dont la carrière s'étend sur plus d'un demi-siècle. Cette carrière, elle a commencé en Arkansas, où il est né et a grandi. Il a connu le succès en Ontario, au Canada, où il a vécu finalement la majeure partie de sa vie. Il est considéré comme très influent dans l'avènement et l'évolution de la musique rock au Canada. Aussi connu sous différents surnoms comme Romping Honey, Mr. Dynamo ou simplement The Hawk, le Faucon, il fut l'un des acteurs clés de la scène rock des années 60 à Toronto. Tout au long de sa carrière, Ronnie Hawkins s'est produit partout en Amérique du Nord et il a enregistré plus de 25 albums. C'est lui qui a révélé les futurs membres du band qui a longtemps accompagné Bob Dylan ou Roy Buchanan dont j'ai parlé dans Open Blues, ainsi que les musiciens qui vont former le Full Tilt Boogie Band de Janis Joplin. Bref, une sacrée personnalité de la musique nord-américaine. Contemporain d'Elvis Presley, en décembre 1969, Ronnie Hawkins a accueilli John Lennon et Yoko Ono pour un séjour chez lui à Mississauga, en Ontario. C'est dire la réputation du bonhomme. Mais voici la célèbre chanson de Carl Perkins, Matchbox. Duane joue de la slide guitar et je pourrais citer pour une fois les musiciens du studio Fame, Jimmy Johnson à la guitare, King Biscuit Boy à l'harmonica, David Hood à la basse, Roddy Hawkins à la batterie. Mais c'est la slide de Duane qui ressort le plus dans cette belle version.
Sitting here wondering where the matchbox hold my clothes. Ooh, mama, I'm sitting here wondering where the matchbox hold my clothes. I ain't got no matches, but I got a long way to go. I'm just an old poor boy, long way from home. Ooh-hoo, I'm an old country boy, long way from home. I ain't got no matches, honey, everything I do is wrong. Hey, let me be your little dog until that big dog comes. Hee-hee, let me be your little dog until that big dog comes. When the big dog gets there, show him what the little papa done.
C'était Matchbox, la boîte d'allumettes, par Ronnie Hawkins, avec Duane Allman à la guitare, sur OxyWeb Radio. Pour cette première session avec Aretha Franklin en janvier 1969, John Oldman s'est rendu à New York où, comme simple membre du public au Fillmore East, il a assisté au concert de Johnny Winter. Et il a dit au guitariste de Muscle Shoals, Jimmy Johnson qui l'accompagnait, que d'ici un an, il serait sur cette scène. Et effectivement, en décembre de la même année, l'Allman Brothers Band a en effet joué au Fillmore East. Mais revenons-en à Aretha Louise Franklin, née en mars 1942 à Memphis, Tennessee, et morte en août 2018 à Détroit, dans le Michigan. C'est une chanteuse, pianiste et auteure-compositrice américaine de soul jazz, et gospel et rhythm and blues, qu'on surnommait la reine de la soul. Pour son 17e album studio, Spirit in the Sky, in the Dark, Aretha Franklin réalise ses enregistrements à New York, mais veut les musiciens de Rick Hall de Muscle Shoals, comme le montre d'ailleurs très bien le biopic Regret paru en septembre 2021. L'album lui va sortir en août 1970 chez Atlantic Records. Il a reçu des éloges de la critique, mais fit des ventes assez médiocres, malgré deux singles à succès, Don't Play That Song et Spirit in the Sky. Ce fut le premier album d'Aretha depuis qu'il était chez Atlantic, à ne pas figurer dans le top 20 du Billboard. Or, maintenant, il est considéré comme l'un des plus grands albums d'Aretha. Parmi les autres titres remarquables de cet album, j'ai choisi de vous passer The Wait. C'est une superbe chanson folk rock du band, le groupe qui accompagnait Bob Dylan.
Just need some place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell me where a girl might find a bed?
Can you tell me?
Just grinned and shook my hand, and that was all he said. My bag, I went looking for a place to hide. When I saw coming in the devil walking side by side, I said, "Hey, coming, come on, let's go downtown." She said, "I gotta go, but my friend can stick around." Take a load off Fanny, take a load for free, take a load off Fanny.
C'était The Weight, le poids, par Aretha Franklin, avec Duane Ullman à la guitare, sur OxyWeb Radio. Johnny Edward Jenkins est un guitariste américain de blues, né en mars 1939 et décédé en juin 2006. Johnny Jenkins était un guitariste gaucher très renommé. Il a permis le lancement de la carrière d'Otis Redding et a beaucoup influencé Jimi Hendrix. En 1970, il a enregistré un disque resté fameux, même si son nom, Tonton Macoute, peut surprendre. John Ullman y joue de la guitare et du dobro et fait de reprises diverses. Ainsi, on y trouve aussi trois membres fondateurs des Ullman Brothers, le bassiste Barry Oakley et les batteurs Jemmo et Butch Trux. Le manager à l'époque était Phil Walden. Pour mémoire, dans les années 60, Johnny Jenkins était le leader des Pine Toppers avec comme chanteur le jeune Otis Redding. Il servait également de chauffeur personnel à Johnny. Et pendant une session d'enregistrement en 1962, Johnny Jenkins a laissé 40 minutes de temps de studio inutilisées. Aussi, Otis Redding en a profité pour enregistrer une ballade, These Arms of Mine, sur laquelle Johnny Jenkins d'ailleurs joue de la guitare. Pour Otis Redding, ce fut la révélation quand la chanson passa dans les radios. Et Phil Walden se concentra alors sur la carrière florissante d'Otis Redding. Jenkins se trouva mis à l'écart et ce n'est qu'après la mort d'Otis Redding en 1967 que Phil Walden s'est de nouveau concentré sur la carrière de Johnny Jenkins. En 1970, Johnny sort l'album Tonton Macoute qui est un mélange de blues rock et de rock sudiste assez réussi. Mais Phil Walden va de nouveau oublier Johnny Jenkins, qui ne reviendra sur le devant de la scène véritablement qu'en 1996 avec un album Blessed Blues enregistré avec Chuck Leavell, le pianiste fabuleux de l'Allman Brothers Band et de Sea Level. Mais voici Rolling Stone, la pierre qui roule, la chanson de Muddy Waters. I tell you, baby.
you that I sat down, hey, Lord, on a stub. She said, come on in, come on in, Johnny boy. Lord, he's just not left. My husband's just not left. Got me all here by myself. All by myself, baby.
C'était Rolling Stone par Johnny Jenkins avec Duane Allman au dobro sur OxyWeb Radio. En octobre 1971, Duane Allman s'est tué dans un accident de moto peu de temps après la sortie de l'album live At Fillmore East. Il n'a donc pas vraiment connu la gloire, il a juste pu s'offrir sa moto Harley-Davidson Sportster avec laquelle il a eu son accident. Au plan personnel, on sait moins qu'il a eu deux filles, Galadriel qui était née de sa relation avec Donna Rosman, qui est née en 1969. Celle-ci a publié un livre à propos de son père, Please Be With Me, A Song For My Father. Et dans le cadre des recherches qu'elle a faites sur son père, elle a découvert qu'il avait eu une fille à l'époque où il était adolescent avec une copine à lui, Patty Shandley. Malheureusement, cette fille est sourde, elle n'a donc pas connu son père et en plus, elle ne peut pas l'écouter jouer de la guitare. La semaine prochaine, je vous parlerai de Jefferson Airplane et de leur album live paru en 1969. Mais d'ici là, roulez blues.